Vous écoutez France Musique, il est 11h et c'est votre rendez-vous avec Benoît Duteurtre. Bonjour Benoît.
Bonjour François Udry et naturellement j'attends déjà samedi prochain pour vous retrouver.
Étonnez-moi. Benoît.
Et puis juste avant l'émission, je suis allé me faire couper les cheveux puisque je reçois ce matin le chanteur Antoine qui viendra nous voir avec son nouvel album, son dernier livre et son style de vie plein de soleil des îles et de soif de liberté. Il nous parlera de lui mais aussi de ses amours musicales, de Bob Dylan à Edith Piaf. Antoine à ce micro.
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit. Je vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau. Enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie faut pas s'en faire.
Mais quel est donc ce chanteur à cheveux longs et à chemise à fleurs qui, en 1973, enregistrait cette opérette Dédé d'Henri Christinet, vous l'avez reconnu, chez RCA. Quel est ce chanteur qui voulait rendre ainsi un coup de chapeau aux années 20 et à l'esprit d'insouciance? L'esprit d'insouciance, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'idée qu'on se fait de lui avec sa vie de voyageur et pris de liberté, ce qui ne l'empêche pas de se poser des questions. Alors, il est venu ce matin nous voir avec son nouveau disque et son nouvel album. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine.
Comment c'était le paradis? Comment faire une révolution? J'ai pas de mode d'emploi pardi. Collier de fleurs et cheveux longs, voilà mes flèches, mon fusil. Je ne me ferai jamais tondre, avaler leur foin que nenni. J'aurais dit non, 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 non. Sans vouloir vous vexer, je vais devoir y aller. J'ai une autre idée pour ma vie, comme une voix qui m'appelle, comme un vent qui se soulève, une grande voile tendue vers le ciel qui me prend sous son aile. Des océans de toutes les couleurs, nu concentré de bonheur, me priver de ça, quelle horreur. Si je reste à quai, j'ai mal au cœur.
Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour Benoît.
C'est presque un programme politique cette chanson-là.
C'est une profession.
Le nom,
profession de foi.
il faut se révolter, il faut dire non dans,
ah ben,
dans
écoutez,
le monde.
Je crois que c'est Thomas Jefferson qui a dit la liberté, c'est l'éternelle vigilance.
Oui.
Alors moi, de loin, sur ma petite montagne, enfin sur ma petite île, où je vois le monde de loin, eh ben, j'ai peut-être tendance à avoir une vision un peu plus claire que ce qui est enfumé par le débat politique. Trop proche. Donc, j'ai eu envie de m'exprimer dans cet album.
Et vous avez parfois l'impression que le monde va de plus en plus tout droit dans un mur auquel il faut dire non
ou... Ah, ben, je pense aussi, oui. Je pense qu'il y a aussi des belles choses, il y a aussi des progrès formidables, il y a de l'utopie. Moi, je suis amateur, c'est une expression qui est née dans la bouche d'un collaborateur de France Inter, de Radio France, avec qui j'ai animer des émissions ici même.
Dans ce studio même, ici. 154.
Il s'appelait Olivier Nanteau.
Ouais.
Et il m'avait dit, toi, ce que tu fais, tu sèmes des graines d'utopie.
Voilà, parce que c'est ça que je trouve merveilleux chez vous, c'est que vous êtes à la fois, par certains côtés, un révolté, un militant, mais en même temps, vous êtes fondamentalement un hédoniste, amoureux du bonheur.
Je suis un positiviste et je pense qu'il y a beaucoup de bonheur accessible sur cette terre. Bon, j'ai la chance d'avoir des privilèges incroyables, de pouvoir vivre... un peu loin des tracas et tout, où je fais mon travail comme tout le monde, je bosse. Hein.
Oui, enfin, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir fait quelques tubes pour pouvoir vivre comme
non,
ça.
Non, c'est pas les tubes, je vis pas de mes tubes du tout. Les tubes que j'ai fait, c'est pas ça qui rapporte un sou. Non, c'est je vis de ce que je fais, des films que je réalise, des albums de photos que je fais avec ma compagne et tout, et puis de spectacles, des conférences et tout. Mais j'ai ce privilège, c'est vrai, mais je crois qu'il est à la portée de beaucoup de gens s'ils ont envie justement de lever le nez du brouillard dont on les entoure. Quoi. Il y a beaucoup de choses possibles.
Et alors quand vous rentrez à Paris comme ça, avec un nouvel album, que vous faites la tournée des médias, vous avez l'impression de retourner au turbin après ces belles vacances éternelles qu'on vous envie vu de loin.
Je dis toujours, c'est pas un grand retour, c'est un petit passage. C'est un petit passage. C'est-à-dire que j'ai eu la chance que quelqu'un, j'ai eu plein de chance dans la vie, on m'a appelé quand j'étais sur mon bateau au bout du monde pour me proposer d'écrire des livres, proposer de faire des tournées de conférences.
En plus, ça vient tout seul. Oui.
Ah, ça vient tout seul. C'est extraordinaire. Bon, je vais pas me vanter de ça, mais je peux me vanter d'avoir su sauter sur l'occasion quand elle se présentait. Et là, c'est un garçon qui s'appelle Stanislas, qui est bien connu comme musicien, un très grand musicien. Il a eu un succès avec une chanson qui s'appelait plusieurs chansons d'ailleurs, mais en tout particulier Le Manège. Et puis, il a également été chef d'orchestre d'opéra.
Beaux arrangements dans l'album, d'ailleurs.
Voilà. Il a fait les arrangements de l'album. Il a également fait les arrangements. Il a dirigé entièrement mon spectacle à l'Olympia, que je viens de faire il y a 3 jours, là, qui a été des retrouvailles. Ça fait 25 ans que j'avais pas chanté un spectacle entier à l'Olympia. Mais c'était superbe. Il a fait un très beau travail, Stanislas.
Mais sans blague, la tournée des médias, le retour sur scène, etc. Il n'y a pas un côté épreuve du tout. Vous faites tout ça avec plaisir?
Non, il y a un côté un petit peu plus difficile, c'est quand il faut aborder le sujet que j'ai abordé dans le livre. On va y revenir tout à l'heure. Mais en général, je vais vous dire quelque chose. Je suis émerveillé, je suis stupéfait de la gentillesse, de l'estime, de l'immense estime, enfin la touchante estime que me témoignent les gens. J'étais il y a quelques jours dans l'émission de Frédéric Lopez ici, en venant l'enregistrer, j'ai entendu les applaudissements et tout. Le public m'a fait un accueil,
Parce que vous suscitez la sympathie,
une gentillesse. Et même les chroniqueurs qui peuvent être un peu caustiques de temps en temps, et ben la plupart. Avec moi, ils sont gentils, c'est incroyable, quoi.
Alors, on va revenir, si vous voulez bien, parce qu'on est sur France Musique, on va faire un peu d'histoire de la chanson.
Voilà.
Sur quelques étapes de votre longue et très atypique carrière. On va parler aussi un peu des musiques que vous aimez.
John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows.
paper well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch a parking meter. Short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and they put you on the day shift, look out, kid, they keep it all hid, better jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to forge a scandal, don't want to be a bum, you better chew gum, the pump don't work, cause the vandals took the handle.
Subterranean Homesick Blues, c'était bien ce Bob Dylan. Je peux témoigner, Antoine, que vous avez chanté toutes les paroles.
Bon, pas toutes, mais presque. presque la dernière cœur, phrase, hein. C'est quand même « The pump don't work because the vandal took the handles ». La pompe Traduction. Ne marche pas parce que les vandals ont pris la manivelle. C'était
vous savez qu'on parle
très
de lui,
surréaliste.
Vous savez qu'on parle de lui pour le prix Nobel de littérature.
Hein, ah ben, faut 100 fois. Moi, je
ah,
suis,
vous êtes pour.
Ah oui, bah, évidemment. S'il y a quelqu'un sur cette planète qui doit avoir le prix Nobel de littérature, c'est Dylan, hein, ça fait aucun doute. Il a tellement influencé de gens.
Ouais,
je sais que quand j'ai écouté cette chanson, moi, il y avait d'autres que j'étais déjà 65, de Dylan.
Hein.
Et ça, j'ai écouté ça sur à Leicester Square, à Londres. J'étais parti dans le rêve des années 60. Comme ça, ouais, j'étais parti à Leicester Square et j'avais écouté ce disque-là pour la première fois. Et c'était un coup
un
de foudre.
Ouais.
Parce que lui, il avait commencé par du folk paisible
ouais.
à la guitare, quoi.
Ouais, ouais.
Et tout d'un coup, avec ça, il partait dans l'organ-roll, quoi.
Ouais.
Il y avait Like a Rolling Stone qui était déjà orchestré avec des instruments électriques et batteries et tout. Et puis, tout d'un coup, là, avec ça, tout d'un coup, il remariait le rock et le folk. Quoi.
J'ai lu dans un article que c'est cette chanson qui avait inspiré vos fameuses élucubrations.
C'est pas celle-là exactement,
c'est
non.
Pas celle-là.
Non,
bon.
celle qui a. Elle.
Il y a l'harmonica, bon, il y a le ton, il y a un peu la voix même.
Mais celle qui a été, c'était plutôt, à l'époque, il y avait un art qui s'appelait le Talking Blues.
Ouais.
Le Talking Blues qui était connu chez tous les blues bands, chez beaucoup de chanteurs américains. Et sur 12 mesures à peu près, il faisait, c'était pas les accords du blues, mais sur 12 mesures do, fa, sol, septième do,
ouais.
Il racontait des espèces de courtes histoires, une blague, quoi. C'était.
Ouais, des élucubrations.
Le blues en parlant. Et moi, j'ai traduit Talking Blues par élucubration, qui était un mot que mon père utilisait fréquemment.
Alors, votre père, c'était un homme qui, par son métier, a beaucoup voyagé. Vous avez aussi une enfance très itinérante,
voilà,
Antoine.
Bah mon père est né dans un petit village des montagnes de Corse.
Ouais.
Tout d'un coup, il s'est sorti de ce petit village parce qu'il était bon en maths ou je ne sais pas quoi. Il a fait des études d'ingénieur
ouais.
et il a choisi de partir voyager. Donc, il est parti en Algérie, à Madagascar. C'est là que je suis né, c'est
ouais.
mon frère
ouais.
aussi. Et puis après, on est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon et puis au Cameroun. Puis même en France, on a changé de ville tout
voilà,
le temps.
Donc
quoi.
Déjà, c'était présent, ouais. ce goût
déjà,
voyageur
totalement.
Ouais. Est-ce qu'il y avait dans votre famille alors certains goûts musicaux qui ont pu vous marquer? Pas tellement.
Non, mon père ouais. avait de la musique. Il est bon à l'époque, c'était il écoutait les comédies et musicales américaines.
Ah pour, oui, c'était ça.
Lui, pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, on passait par New York et Montréal.
Ouais.
Donc il avait le grand truc, c'était Oklahoma. Alors Oklahoma, c'était tout dit, ou bien...
Bien sûr, Rogers,
Hammerstein. Ou bien Night Riders in the Sky, qui est devenu
ah oui,
en français les Chevaliers du Ciel. Les Chevaliers du Ciel.
Oui.
Donc on était en prise avec la musique...
américaine, déjà.
La musique américaine, Frankie Lane. Uh-huh. Et un petit peu de les premiers folk avant que le mot folk soit connu. Quoi.
Parce que vous étiez un jeune homme plutôt brillant, puisque vous êtes allé vers l'école centrale, après le bac, etc. Mais comment votre goût musical, votre désir de chanter s'est éveillé?
Ben moi, déjà, j'ai adoré la musique.
Ouais.
Enfant, j'écoutais les disques que mes parents avaient achetés
ouais.
avec plaisir.
Ouais.
Aucune culture classique, par contre. Vraiment, je suis totalement nul. Hein. Je ne sais pas la différence entre Mozart et Beethoven, je ne sais
vous
pas.
Vous êtes pardonné. Vous je avez encore pas. Le temps. Hein.
J'ai encore le temps. Mais par contre, j'ai cette musique un peu américaine. Et puis ensuite, quand j'étais étudiant à Grenoble, on recevait tous les ans des Américains qui venaient dans nos familles. Avec toute une bande de copains, et ils arrivaient avec des guitares. Et
ah,
du coup,
voilà.
j'ai appris à jouer à la guitare avec des jeunes Américains.
Ah, oui.
Le folk, c'était plus le rock, c'était le folk qui arrivait, quoi. C'était
ah.
avec Tom Dooley, des grands classiques du folk, et puis y compris Harry Belafonte,
avec
Calypso et tout. Et puis, du coup, c'est comme ça que j'ai appris la guitare. Et puis quand je suis parti comme on faisait ensemble, mais je suis parti sur la route en autostop me balader à l'âge de 20 ans.
Vous aviez
19,
lu Kerouac,
20 ans. J'avais pas lu Kerouac, j'ai lu par la suite. Ouais. J'ai retrouvé des points communs. Mais quand je suis parti comme ça, eh ben, il a été normal que j'emporte ma guitare avec moi. Et j'ai réalisé que je pouvais vivre de ça.
Voilà. Et le succès, alors, est arrivé très vite avec cette chanson. Alors, je sais ce que c'est parce que je reçois beaucoup de chanteurs dans cette émission et bien souvent, ils ont un tube qui leur colle à la peau. Bon, mais malgré tout, c'est intéressant d'en parler un petit peu.
Ah oui, oui, bien sûr.
On va écouter tout de suite. On va retrouver un petit document. Alors, c'est à vos tout débuts. Là, vous êtes dans un gala à l'école HEC. Et puis après, on va entendre un petit bout des élucubrations.
Antoine, je voudrais savoir quelle était la part du coefficient, du multiplicateur de Lagrange dans la planification de votre fonction de production.
Une question. Il y en a beaucoup comme ça à HEC ?
Je voudrais savoir si, les bruits, il y a certains bruits qui courent comme quoi Central ne te plaît pas tellement et tu comptes faire HEC. Ces bruits semblent être confirmés par ta présence au Boom HEC. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Est-ce que vraiment tu viens au Boom HEC à bord et est-ce que tu comptes vraiment faire HEC après Central?
Oui, je viens au Boom HEC pour prendre des contacts pour voir si j'arriverai à rentrer à HEC en dernière année.
Antoine, nous connaissons déjà votre passé, ce qui m'intéresse c'est votre avenir. Je voudrais donc vous demander quand est-ce que vous comptez vous reconvertir vers la chanson.
Oh yeah. Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Turner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah.
Ah, cette pauvre Yvette Horner, hein, Antoine, vous n'avez pas été gentil avec elle.
Oh non, c'était mignon, c'était pas... Dans les élucubrations, c'était que des phrases un peu surréalistes, comme Johnny en Cajamé de Rano, jamais non plus demandé qu'il y ait des avions dans les couloirs du métro, c'était juste des phrases un peu surréalistes, quoi. Mais ça avait fait de l'effet, hein.
Ça avait fait de l'effet. Il n'y a pas eu de réaction, justement, du côté de Horner et accordéon.
Il y a une anecdote, c'est qu'il y avait dans la maison Vogue, où j'ai fait mon premier disque, il y avait un autre accordéoniste célèbre qui s'appelait Aimable.
Oui, bien sûr.
Et
ouais.
Il n'était pas toujours aimable. Et on lui a appris qu'il y avait l'éditeur, quand il a su que l'éditeur de la maison de disques éditait une chanson qui disait du mal d'une de ses collègues, Yvette Horner, il s'est foutu dans un pétard terrible. Qu'il est allé attraper l'éditeur, qu'il a foutu dans le coffre de sa voiture et qu'il voulait le jeter dans la Seine.
Mais alors, c'est vrai que, bon, chez les Yéyés, dont vous faites plus ou moins partie, enfin, on va y revenir, mais il y avait quand même un côté guerre des générations, genre une nouvelle génération de la chanson française balaye la précédente. Il n'y avait pas quelque chose un petit peu injuste aussi dans cet aspect-là, au fond?
C'est vrai que moi, je ne faisais pas partie des Yéyés, je suis arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles, dans le terrain de jeu des Yéyés. Ouais. Mais il se trouvait que jusqu'à 1960 à peu près, les jeunes n'avaient pas voix au chapitre, ni consommé, ni rien. Il y a actuellement une comédie musicale qui raconte un peu ce phénomène de Salut les copains. Et tout d'un coup, c'était des commerçants comme Philippe Aki, etc. C'était des commerçants qui ont amené la publicité sur une station de l'estade radio périphérique et tout. Ouais. Et tout d'un coup, les jeunes avaient voix au chapitre, en particulier sur la musique. Ouais. Et les jeunes, donc, on leur a vendu de la musique qui était souvent qu'une adaptation toujours très bien réussie de chansons américaines. Ouais. Et c'est vrai que même Becco, par exemple, qui a donné son nom à l'émission Salut les copains, C'était une chanson de Beko. Salut les copains, je pars en voyage.
Ouais, c'est vrai. Alors c'était la génération d'avant.
Même lui a été triqué de l'émission.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que l'émission, c'était une phrase qu'il avait rendue célèbre, mais il passait pas dans l'émission, quoi. Et moi, je suis arrivé dans un univers où c'était juste la fin de la grande époque de Salut les copains. En fait, j'ai un peu bousculé moi-même, quoi. Ouais. Parce qu'ensuite, quelques temps après, il y a eu mai 68. Ouais. Et tout d'un coup, on s'est intéressé à une musique plus intelligente que la musique de consommation de Salut les copains, quoi.
Mais finalement, la chanson française d'avant, alors qu'est-ce que vous en pensez? Les Brassens, les Brel, les
Ah ben Plaf, moi, j'ai toujours Ferré, adoré. J'ai jamais été un grand poète. Quand Brel chantait le berger qui joue à l'ombre d'un pipeau, je comprends pas, parce que pour moi, le pipeau, on joue de la musique et on est à l'ombre d'un arbre, quoi. Donc, là,
il y a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. Un nounours, il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser le Jerko Palladium. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah! Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah!
Si Monsieur Kennedy aujourd'hui revenait, aussi Monsieur Gandhi, soudain ressuscité, il serait étonné quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da 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 dam dam, da 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 dam dam, et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté. Sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé. Sinon, combien de larmes et de sang évité? Dadadadam, dadadadam. Mais bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs.
Il est vraiment fâché, hein, là.
Ah oui,
Johnny,
mais c'est-à-dire
hein.
Que. Bon, j'ai raconté 100 fois l'histoire, hein, mais.
Merci de l'organiser.
J'ai fait bref. Quand ma chanson est sortie, j'étais inconnu au mois de février, en 66. Inconnu en février, en vedette à l'Olympia, en avril. C'est pas faire, ça n'est jamais arrivé à personne. Et mon premier gala, je gagnais 1000 francs. Et j'étais à Marseille. J'avais pris l'avion d'Air Inter pour aller à Marseille. Et je chante. Et je vais dormir dans l'hôtel qui était en ville. À l'époque, il n'y avait pas des hôtels, des chaînes, etc. Et on me dit, il y a votre collègue qui est là. Je dis, quel collègue? Quand je rentre après le gala, il dit, votre collègue est là. Quel collègue? Et Johnny. Ah ben, il était dans la boîte de nuit. Je vais voir la boîte de nuit. Je vais directement à la table de Johnny. On m'amène directement à sa table. Et Johnny me dit, j'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Il avait une chemise à fleurs. Mais ce qui s'est passé, donc, la relation était excellente. Il adorait la chanson. Mais, dans les 2 mois qui ont suivi, mon succès est devenu tellement fort tellement dingue.
Ça l'a agacé.
C'est l'Olympia. Pas tellement lui, mais les gens qui l'entouraient. Parce que quelqu'un comme Johnny, il est forcément entouré de gens qui, qui essaient de penser pour lui et qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Et là, lui, on dit non, il faut que tu répondes. Antoine, il te met minable, etc. et tout. Et là, ce qu'il y a d'amusant, c'est que cette chanson, Cheveux longs, idées courtes.
Donc il a réponse à la délucubration.
Elle ne passe, dans l'œuvre de Johnny, elle ne passe que quand je suis concerné. c'est pas un classique de Johnny, c'est pas une des grandes chansons de Johnny.
Mais vous êtes revu depuis?
On se croise de temps en temps. J'ai eu un petit message quand il a su que je faisais l'Olympia. Il m'a
Envoyé, donc tout va bien.
Il m'a fait passer des encouragements et tout. Donc,
Alors, vous nous avez parlé de votre arrivée un peu décalée dans le mouvement yéyé. Il y a un autre groupe de chanteurs à la même époque auquel on vous associerait plus facilement, auquel on vous rapprocherait en tout cas plus facilement. Je pense c'est à Nino Ferrer, c'est à Dutronc, c'est à tous les ironistes de la chanson française des années 60.
Ben c'est arrivé
vous
derrière
les connaissiez
ça. C'est arrivé après.
Dutronc arrive juste
Nino
après.
Ferrer en même temps. Dutronc juste après. Dutronc a été créé comme réaction dans la maison de disques. C'était avant tout, ça a été des textes écrits par Lanzmann et il fallait que quelqu'un les chante et ils sont tombés sur quelqu'un de talent qui est Jacques Dutronc quoi.
Mais il y a même une façon de chanter qui ressemble un peu à celle de vos débuts.
Bah, d'ailleurs on lui a dit il faut que tu chantes pour le premier disque. On a dit il faut que tu chantes comme Antoine.
Ah comme Antoine.
Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on croyait que moi je voyais des gens qui me disaient j'adore votre nouvelle chanson. Je dis laquelle? Et celle avec les Chinois. Chinois. Je vois pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais c'est certain que j'ai marqué un changement où tout d'un coup je dis pas que les chansons sont devenues intelligentes, mais elles sont devenues moins asexuées, moins bétifiantes quoi. Il y avait tout d'un coup aussitôt après moi il y a eu Michel Polnareff. Au même moment, il y a eu Dutronc, il y a eu Nino Ferrer, c'était vers la même époque, c'était beaucoup plus ironique, sauf des chansons comme La Fontaine, comme, enfin, des jolies chansons comme ça, comme La Maison près de la Fontaine ou Le Sud. Mais il s'est passé quelque chose, il y a eu ensuite des gens, ça a ouvert la porte à des Julien Clerc, Souchon, Woolsey, etc., quoi. C'est sorti de la simple adaptation de succès américain yéyé, quoi.
Et puis, il y avait autre chose qui, au fond, vous n'étiez pas tellement nombreux en France, qui existait chez vous, c'était un côté finalement beaucoup plus, justement, beatnik, hippie, il n'y avait pas tellement ça sur la scène de la chanson française.
Non, moi j'étais
entre
classique.
Les yéyés et puis ce qu'on appelle la French pop un peu plus distanciée. Vous
c'est
étiez
ça. Moi, j'étais,
encore ailleurs.
Moi j'étais un peu sur la route. Hein.
Oui,
j'étais
ça,
même,
voilà.
J'ai toujours été sur la route lorsque j'ai commencé à chanter puis qu'il y a eu des moi j'imaginais que j'allais faire les premières tournées en autostop. Hein. Moi,
j'y croyais vraiment.
J'imaginais ça. Puis du coup j'étais plongé dans un système un peu différent avec Christian Fechner qui était un jeune directeur artistique débutant.
Voilà, qui est devenu un très grand producteur de cinéma. Mais qui a été directeur artistique
au
début. Hein.
Mais qui d'un coup m'a emmené sur des voies qui ne me plaisaient pas beaucoup parce que c'était un peu presser le citron, c'était trop courir après le succès. Moi, j'avais envie de rester libre. Quoi.
Avec les futurs Charlots,
voilà,
qui étaient des musiciens.
Les problèmes, qui étaient des très bons rockers. Un des meilleurs de groupes de rock français. Quoi, qui ensuite, mais quand Christian, quand tout d'un coup, ils ont fait un succès pour faire une blague et que c'est devenu ils ont fait un enregistrement d'une parodie de mes chansons qui est devenu un succès, Christian leur a dit le rock and roll, c'est fini pour vous, maintenant vous faites les clowns. Et il était comme ça. Et moi, j'avais pas envie qu'on me dise des choses comme ça. Donc, je suis séparé de Christian rapidement.
Et les autres, vous avez gardé des liens pendant...
De temps en temps, oui, spécialement avec Gérard Rinaldi,
qui
nous a quittés, avec Louis Rego. Bon, avec tous, mais c'est vrai que j'ai fait le dernier Olympia que j'ai fait, avant celui d'il y a 3 jours, c'était il y a 25 ans, et c'était avec eux. Antoine retrouve les problèmes.
Alors, une chose qu'on sait pas forcément non plus tellement en France, c'est que vous avez eu aussi beaucoup de succès dans un certain nombre d'autres pays, et notamment il y a une affinité on dirait avec l'Italie.
Ah ben j'ai eu plus de succès en Italie qu'en France numériquement. J'ai vendu plus de disques, j'ai eu 5 gros tubes en Italie, spécialement un qui s'appelle Pietre, inconnu en France.
Oui, j'ai écouté, très joli titre.
Mais qui est rentré dans l'inconscient collectif des Italiens autant que les élucubrations. C'est-à-dire que
alors, il y a une latinité chez vous qui parle au cœur
italien.
Peut-être,
mais cette chanson, c'est tout d'un coup, ça dit que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois riche, que tu sois pauvre, de toute façon, on te jettera des cailloux, quoi.
Ah ouais.
Ça s'appelle les pietre. On te jette, tirano les pietre. Et si je vais en Italie, par exemple, 45 ans après, j'arrive à la douane, le douanier, il me dit, les tirano ont encore les pietre. Il vous jette encore des pierres, alors.
Ah oui, à ce point-là.
Et voilà, comme ça, c'est un truc qui est rentré dans la mémoire collective et inconnu en France. C'est amusant d'avoir deux vies. C'est comme si j'avais Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Il y a l'Antoine français.
Et l'Antoine italien.
L'Andois italien. Andois.
Et puis il y a l'Antoine des îles qui fait rêver tout le monde, évidemment.
Abandonner ma cage attiré par la plage, j'ai roulé jusqu'ici. Sous un ciel sans nuages, j'ai le cœur en voyage, j'ai envie de ma vie. Je ressassais des idées sombres, du côté du mur à l'ombre. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil. Un air d'été, tout léger. Comme une fleur en plein cœur de l'hiver, m'a rendu cette envie de valser. Un air d'été, tout léger. Comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances.
Alors là, je veux dire, vous savez, j'adore cette chanson, j'ai un faible, j'ai écouté beaucoup ces derniers jours, je ne pouvais pas m'arrêter. D'abord, j'aime bien l'idée de la légèreté, ça doit me parler spécialement. Puis la chanson est vraiment belle musicalement.
Et c'est une chanson, curieusement, que j'ai ramenée du Québec.
Moi je crois que ça venait de. Vous aviez trouvé ça à Tahiti.
Quand j'ai remonté le Saint-Laurent sur mon deuxième bateau, sur voyage, oui. En solitaire, là, c'était une expérience magnifique, j'ai passé l'hiver là-bas. Et c'était un gros succès par Pierre Bertrand. Pierre Bertrand, qui était un des chanteurs, du célèbre, mythique groupe Beau-Dommage, ceux qui chantaient la complainte d'un phoque en Alaska. Et donc, j'ai enregistré une version en même temps que lui avait publié la sienne.
Vous voulez dire que vous aimez autant le froid que le chaud dans votre pérégrination ?
Non, j'aime mieux le chaud, mais j'aime tellement le Québec que j'ai fait une entorse à mon goût pour la chaleur et j'ai passé un hiver entier au Québec et c'était inoubliable. J'adore ce pays.
Voilà, alors ça c'est en tout cas un album qui date de 1985, alors on a fait un grand saut dans le temps évidemment depuis les élucubrations, presque 20 ans, et au milieu de cette période, il y a un moment où vous avez dit, je prends le large, j'en ai un peu assez du showbiz, et maintenant je vais vivre exactement comme j'ai envie de vivre, c'est à peu près ça.
Hein. J'étais tombé tout à fait par hasard sur un bateau, j'étais monté sur un petit voilier, et j'ai été convaincu immédiatement que ça pouvait être un plan de vie, que ça pouvait m'emmener vers d'autres univers, vers d'autres horizons. C'était pas une fuite, je disais pas Fontaine, je ne boirai pas de tourneau, je disais je veux voir d'autres choses aussi.
Pour un certain temps.
Voilà. Donc j'ai conçu un plan qui devait durer 5 ou 6 ans, disant je reviendrai en France, je consacrerai 3 mois par an au show business et au système en général, venir payer mes impôts, toujours payer mes impôts
en France.
Toujours payer mes impôts en France, venir enregistrer, faire des spectacles, de la promotion et tout, prendre des contacts dans professionnellement, quoi. Ouais. Mais le reste du travail, c'est-à-dire le reste du travail que font tous les créateurs, c'est-à-dire s'ouvrir les yeux, les oreilles, l'esprit à la réalité du monde, découvrir, j'ai dit ça, je le ferai en voyage, quoi. Et je pensais que ça durerait 5-6 ans, et ça fait 38 ans que ça dure, quoi.
Voilà, finalement, vous avez compris que c'était plus intéressant que l'agitation.
C'était plus passionnant, oui.
De la carrière.
J'adore revenir, mais je sais que je suis très content quand je repars.
Et alors, vous avez glané sur votre chemin des quantités de musique, tiens. Là, je crois qu'on va entendre un petit peu Oriema.
Jeffrey Oriema, là, c'est ça, voilà.
Alors, c'est qui, en gros ?
Je connais pas grand-chose sur lui, c'est un compositeur africain, mais j'adore la musique aussi bien de l'Afrique noire, comme Sam Mangwana, plein d'autres, mais j'adore aussi la musique brésilienne.
Vous êtes inspiré pour un de vos albums de la musique brésilienne ?
J'ai enregistré deux albums au Brésil, enfin un album plus un demi-album au Brésil, avec des compositeurs de là-bas, adaptant des chansons de là-bas aussi. J'adorais, je suis allé avec mon bateau deux fois au Brésil, ça, c'est une différence quand on traverse l'Atlantique à la voile, d'arriver lentement, d'entendre dans les radios petit à petit la musique brésilienne qui monte. Donc, les musiques du monde m'ont toujours plu. Arrivé à Tahiti, bien sûr, j'ai adoré.
Elle est vivante encore, la musique traditionnelle à Tahiti ?
À Tahiti, oui, elle est très intéressante, elle a un gros problème technique, gros problème technique parce qu'il y a eu une association qui s'appelle la SPACEM, l'équivalent local correspondant de la SACEM, qui n'a pas fait son travail du tout.
Quoi. Ah, de la SACEM,
qui a pas, oui, de la SACEM, quoi, qui n'a pas fait son travail du tout, alors que la SACEM le fait bien, son travail. Mais du coup, toutes les musiques sont en perdition là-bas. Quoi. Il y a un catalogue immense de compositeurs formidables comme Bobby Holcomb, Angelo, etc. Et on ne peut même pas se servir des musiques, on ne peut même pas les écouter, ou on les écoute sans que les ayants droit soient rétribués, etc. C'est bizarre, quoi. C'est dommage, parce qu'il y a une grande richesse musicale avec des gens de grands talents. Fénois, par exemple. Fénois, si vous écoutez des albums de Fénois, c'est un truc extraordinaire. Mais lui, il est redevenu pratiquement instituteur ou professeur, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur musique. Quoi. C'est dommage, parce qu'elle est bien, leur musique.
Et alors, c'est ce goût du voyage, évidemment, qui a développé en vous aussi le côté militant écolo, on peut dire. Hein.
Militant écolo, je ne sais pas. Je suis un témoin de notre planète et je cherche toujours la beauté. Ouais. Je ne suis pas du genre à essayer de gagner un sou en montrant la photo de l'oiseau le plus mazouté, etc. Comme je vis en grande partie de raconter mes voyages, je ne serais incapable de montrer autre chose que la beauté. Quoi.
Ouais, ouais.
Mais je pense qu'en montrant la beauté et en disant « vous ne pensez pas que ça vaut la peine de
voilà, c'est ça votre
un petit peu, m'a démontré ça.
De voilà. Plus merveilleux.
Montrer ce qui est beau, puis dire, vous pensez bien que ça vaudrait la peine quand même de protéger ça et tout. Moi, c'est mon principe, quoi. Je crois que si on montre que ce qui est laid, on peut démotiver les gens, dire, ah ouais, c'est la merde, c'est pas la peine, on est dans la merde, comme ça. Non. Moi, je montre la beauté. J'ai réalisé. Des gens pensent que je suis dans un hamac toute l'année dans les îles.
Mais c'est vrai, c'est l'idée qu'on se fait de vous, il n'y a pas de doute.
Mais j'ai réalisé près de 30 documentaires en 20 ans.
Et de livres aussi.
Et de livres d'albums de photos chez Gallimard, documentaires chez Warner. Là, il y a un nouveau film qui sort ce mois-ci sur les parcs américains. J'ai quitté la mer un petit peu et on est allé voir les plus beaux parcs américains de Yellowstone à Monument Valley, etc. C'est magnifique.
Alors, à propos de la mer, vous avez quand même fait un nouveau tube qui a marqué beaucoup les esprits. C'était Touché pas à la mer.
Voilà, c'est mon dernier album, donc enregistré à partir de musique brésilienne, de tahitienne, pardon, et écrit entièrement à Tahiti. Et il y avait cette chanson, Touché pas à la mer, qui n'a pas été un gros tube de vente.
Ah bon, parce que tout le monde la connaît.
Mais tout le monde la connaît, c'est ça qui est important. C'est que quelque part, elle a semé aussi une petite graine d'utopie dans l'esprit des millions d'enfants qui l'ont entendue, qui l'ont apprise.
Avec les petits chanteurs d'Anières.
Les petits chanteurs d'Anières, ouais. Et puis beaucoup de chorales continuent à l'enregistrer, cette chanson. C'est assez amusant.
La mer m'a dit en toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, non. Touchez pas à la mer, même si vous bétonnez les 5 continents, pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs, les rivières, la lie empoisonnée des centrales nucléaires. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer.
Voilà, alors ça c'est on l'a dit, un tube, mais qui a marqué les esprits aussi par son contenu, parce que vous avez des messages, Antoine. On va y revenir avec votre livre qui vient de sortir, Délivrez-nous des dogmes. Quand même une question, parce que Touché par la mer, vous l'avez dit, c'est 87, il y a donc 25 ans. Pourquoi est-ce que vous avez laissé passer 25 ans entre votre précédent album et celui qui sort aujourd'hui?
Ben, comme je le disais, j'ai été vraiment embarqué par l'image, quoi, par la passion de l'image, et depuis de réaliser tous ces films, les photos, etc. Donc la musique a toujours eu une place. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que peut-être que ma chanson la plus diffusée sur des supports physiques, en l'occurrence des cassettes et des DVD, ouais, c'était le générique de ma première série de films qui s'appelait Voleur d'images, quoi. Une chanson qui est jamais sortie en
single. Ah oui, encore plus sortie en single. Que Touché pas à la mer.
Voilà, encore plus. Mais c'est parce que c'était le générique de cette émission, série.
Vous sortez en tout cas en même temps que votre disque, un livre chez Léo Cher, Délivrez-nous des dogmes. Joliment écrit d'ailleurs, hein, on sent que vous avez un amour de la langue française, même si vous la titillez un peu certains sujets.
J'ai titillé certains dogmes, dont celui qui fait que l'orthographe n'est jamais changé depuis deux siècles, depuis Victor Hugo.
Vous êtes pour la simplification, hein.
Ben, une certaine simplification, voilà. Je crois pas, je voulais pas aller comme le créole avec tout faire disparaître, mais j'ai dit, par exemple, couper les jeux en quatre sur les accords de participe passé avec les EES, etc. et toutes ces écritures. Ben, non, mais ça fait partie des dogmes comme ça que j'aborde joliment, gentiment, quoi.
Alors, il y a plusieurs chapitres très amusants au début, justement, sur quelques-uns des dogmes ou des idées reçues, comme
les
par exemple.
Les pingouins et les manchots.
En France, les pingouins et les manchots. Alors, nous sommes le seul pays à faire la distinction entre les pingouins et les manchots. Et en fait, n'a pas de sens scientifiquement.
Non, en France, il n'existe pas de pingouins, puisque les derniers pingouins, le dernier animal qui a un nom de pingouin, sauf les petits pingouins torda, dernier pingouin de l'hémisphère nord, a été mangé vers 1840. Par contre, tous les pays du monde appellent ces animaux pingouins et les enfants du monde entier les appellent pingouins.
Et nous, on dit que c'est les manchots parce que c'est dans l'hémisphère sud. Voilà.
J'ai démarré ce livre sur ça parce que c'est un petit dogme qui fait de mal à personne.
Non,
les pingouins n'en souffrent pas. Et les enfants les appellent pingouins de toute façon. Mais c'est un peu l'image l'ensemble des dogmes. Et puis je m'en prends bien sûr à un dogme.
On va revenir à un de ces dogmes. Et le tutoiement aussi.
Le tutoiement, le
particularisme de la langue française.
C'est également en France parce que la plupart des pays du monde n'ont pas ce problème-là. Quoi. Certains pays latins, oui, mais pas l'anglais, par exemple.
Mais les différences en même temps d'une culture à l'autre, c'est plutôt aussi une bonne chose.
C'est une bonne chose, mais lorsque ça aboutit à des... Le tutoiement, c'est pas très grave, mais ça produit quelques drames, des gens qui se disputent parce qu'un jour on les a tutoyés, ou au contraire, ça jette un froid parce qu'on n'a pas voulu vous soyez. Alors, c'est des petits dogmes sans danger, je parle du chewing-dogme.
Chewing-gum sur les trottoirs, je pense que c'est une particularité française, mais c'est vrai qu'ici c'est assez effrayant.
Ah non, mais c'est dans le monde entier, c'est drôle parce qu'il y a un seul pays qui a choisi une voie répressive, c'est Singapour, qui a interdit totalement les chewing-gums.
Le chewing-gum. Mais vous n'êtes pas pour les voies répressives, parce que alors votre livre pour une bonne moitié est consacré justement à un combat que vous menez courageusement, parce que aujourd'hui c'est peut-être pas l'opinion dominante, c'est contre la pénalisation des clients de la prostitution.
Pas seulement des clients, je pense des gens du travail du sexe en général. Parce que
vous êtes pour la liberté totale du travail du sexe.
Je suis non pas pour la liberté totale dans toute chose, parce qu'il faut toujours une forme de contrôle de tous les métiers. Ouais. Mais je dis que depuis un siècle, deux siècles, on a facilité la vie de tous les corps de métiers, aussi bien les employés de maison que les marins pêcheurs, les mineurs, etc. Il n'y a qu'une seule profession qu'on a fait qu'enfoncer dans la misère et la clandestinité depuis des siècles, c'est la prostitution. Alors que moi, je pense que quand elle est libérée de la contrainte, évidemment, quand il y a
du proxénétisme,
proxénétisme violent et tout, mais quand elle est libérée de ça, ce que beaucoup de pays ont fait,
les Pays-Bas
ne sont pas la plus grande réussite, il y a chaque pays, aucun de pays n'est parfait, mais la Suisse, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, que je connais très bien, qui est entièrement légalisée, l'Australie, certains États d'Australie, lorsqu'on a choisi ça, la plupart des leaders disparaissent, quoi. La plupart du danger et tout ça. Et actuellement, je crois que c'est pas une opinion générale, mais il y a quelques associations extrêmement dogmatiques, justement. Ouais. C'est pour ça que j'en parle dans ce livre. Très dogmatiques qui ont envahi le discours public, qui ont fait croire aux gens que la prostitution telle qu'elle est maintenant est un fléau de façon générale. Et ça, c'est ce que je contredis dans le livre, en particulier, disant et montrant que beaucoup de chiffres qui sont proclamés n'ont aucune base réelle, quoi.
Vous opposez d'ailleurs le modèle suédois, qui est celui qu'on suit en France aujourd'hui, qui est le modèle répressif. Et le modèle néo-zélandais, qui est un modèle beaucoup plus libéral.
Que certains veulent suivre, mais que beaucoup... J'ai créé un site qui s'appelle Les Arts du Lit, parce que j'ai...
Les Arts du Lit. Que vous comparez aux autres arts, aussi nobles.
En deux mots, je dis que la gourmandise, jadis un des sept péchés capitaux, est aujourd'hui plus qu'un business, un art de vivre, un univers. Des millions de gens en vivent. des millions de gens en tirent des moments de bonheur. Et pourquoi n'en serait-il pas de même un jour d'un autre des sept péchés capitaux, voilà. Enfin, des prétendus péchés capitaux.
Dans la continuité, au fond, des élucubrations, vous étiez pour la pilule en vente dans les Monoprix. Voilà. Pour vous, la suite de la révolution sexuelle, au fond, c'est cette liberté que vous demandez. Alors que pour d'autres, effectivement, la suite de l'évolution de la société, du féminisme, ce serait effectivement la punition.
Mais je crois que la punition n'est pas une bonne chose dans aucun domaine. Comme on parle du cannabis également, et bien actuellement, c'est incroyable. Le mariage homosexuel, ça semblait être très acquis. Et puis tout d'un coup, les mêmes boucliers que depuis des millénaires se lèvent de tous les côtés, disant que finalement il faut pas que les homosexuels puissent se marier, etc. C'est ce que je disais depuis le début. Mon combat contre la pénalisation, etc. C'est pas une passion pour la prostitution, c'est une passion pour la liberté, et c'est ce que disait Jefferson, à savoir que la liberté c'est l'éternelle vigilance. C'est à ça que j'apporte mon petit. J'ai toute la gentillesse que les gens témoignent, je l'apporte à cette cause.
Et c'est pour ça que vous avez choisi aussi cette chanson d'Edith Piaf, Marie Trottoir.
Marie Trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde, perché sur tes talons, sur tes gros talons. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont envie d'espoir. Tu as d'ailleurs de quoi plaire à certains rêveurs. Tu es assez fardée, tu es un peu trop blonde. Et puis tu as aussi un parapluie. Marie qui pense à tout, même à vous mettre à l'abri. Marie Trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde. Marie, née à Angers, à Nice ou à Saint-Dié. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont besoin d'aimer. Bonsoir, Marie Trottoir, tu fais bien dans le noir. Ne parle pas, souris, vas-y, joue les jocondes. Marie qui a toujours pour tous les sans-amour. Marie qui a un cœur grand comme une roue de secours. Marie Trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Marie Trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir.
Merveilleuse, Edith Piaf. Vous aimez cette chanson?
Quelle merveilleuse phrase, hein, qui a pour tous les, Marie Trottoir, qui a pour tous les sans-amour un cœur grand comme une roue de secours. Parce que c'est vraiment ça le travail qu'apportent ces personnes, quoi. Elles rendent vraiment un grand service aux gens qui trouvent pas d'amour facilement, quoi. Parce que c'est pas très facile de nos jours.
Et vous-même, d'ailleurs, donc, dans votre chanson, Les Arts du Lit, hein, vous terminez par, pour moi, ce sont des gens très respectables. Personne ne leur dicte leur vie. Tout le monde apprécie les arts de la table. On a choisi les arts du lit.
Voilà.
Alors,
vrai.
J'envoie les auditeurs qui veulent en savoir plus à un de vos sites, hein. C'est lesartsdulit.org.
Oui, comme les arts de la table, hein. C'est pas un lézard, hein. C'est lesartsdulit.org. Et il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui pensent, comme moi, qui pensent, voilà, que la liberté vaut mieux que la répression, quoi.
En tout cas, vous exposer, ça demande un peu de courage. Hein,
je pense que c'est un peu notre devoir dans la chanson. Je l'ai fait avec la pilule dans les Monoprix il y a 45 ans. Ça a peut-être aidé un petit peu.
Et alors, dans votre disque, vous le faites aussi avec le pétard.
Alors, je dis une petite chose. Alors, ça me préoccupe beaucoup moins parce que moi, je ne fume pas du tout.
Oui.
Mais je pense que la répression est toujours mauvaise, quoi. Ouais. Je pense que moins les choses sont interdites, plus elles sont contrôlables parce qu'elles sont pas cachées, quoi. Et bien sûr, il n'est pas question d'autoriser, de légaliser la conduite vite sous l'effet du cannabis, c'est évident, ça, c'est un. Mais si on poursuit les gens, si on perd du temps à poursuivre les gens qui fument tranquillement un pétard chez eux, on n'a plus le temps de poursuivre ceux qui créent des dangers en le fumant dans, en le fumant en voiture. Pour moi, c'est le principe de la liberté et au contraire de la répression.
Vous avez écrit à Daniel Vaillant, je sais qu'il partage votre point de vue.
Oui, hein, mais il y a beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens, ouais, mais beaucoup de gens parlent de partagent le point de vue aussi bien sur le point de vue du travail du sexe que ces choses-là. Je crois que c'est, ou du mariage homosexuel d'ailleurs.
Antoine, vous aurez dans maintenant 2-3 ans, 70 ans.
J'ai 68 ans, hein, 68 ça ans, fait... oui, un bel âge, 68, c'est mon année 68.
Mais vous qui avez été l'incarnation, je veux dire, du jeune, comme on disait à l'époque, vous pensez parfois à l'idée de la vieillesse?
Écoutez, non. J'ai fait mon Olympia là, je me suis éclaté d'un bout à l'autre, j'ai dansé comme si j'avais 20 ans, j'ai vu aucune différence, j'ai pas été essoufflé, j'ai pas de trou de mémoire, j'étais impeccable. Donc,
vous faites du sport?
Je vis, aucun sport.
Voilà, c'est la technique de Churchill,
Sport. Mais par contre, je voyage en bateau, j'ai mon sport, il est dans ma tête, il est dans mes mouvements de tous les jours, quoi. J'ai une vie extrêmement active, très active, je voyage, je rencontre, je discute, je parle, etc. Et ça vous garde jeune.
En tout cas, bravo pour cet album que je trouve vraiment très réussi, avec beaucoup de ballades, hein, beaucoup de chansons poétiques.
Il y a du rock comme Les Arts du Lit, il y a plein de chansons assez agitées comme ça, et puis il y a des ballades comme Dernier Nuage, ou bien Unis sur mon pays natal, par exemple, ou bien À Fleurs.
On va l'écouter tout de suite, mais dites-nous le prochain, ce sera dans 25 ans?
Peut-être dans 25 ans, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on est sur celui-ci, ça va très bien. Je continue à le défendre. Encore, j'ai une tournée de conférences là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui, finalement, en conférence, ça ne sera pas de la chanson, c'est Connaissance du Monde, dans le sud de la France, où je présente un film sur les îles de l'océan Indien pendant le mois de décembre. Ah oui. Mais ensuite, je repartirai, je serai l'invité de Michel Drucker, vivement dimanche, pour les fêtes, le 30. Oui. Et aussitôt après, je reprends l'avion pour rejoindre le bateau.
Pour un temps indéterminé. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Antoine. On va se quitter effectivement avec votre chemise à fleurs. Jolie chanson.
Chemise à fleurs, oui, à fleurs. Merci. Merci d'avoir accueilli. J'ai passé un très bon moment. Et puis, bonne journée, bon week-end à tout le monde.
Elle aime quand le bois arrive à fleurs, quand sous le doigt c'est la rigueur. Moi pas du tout. Elle aime la précision, la bonne mesure, quand l'horizon avec le mur va avec tout. Moi j'ai ma chemise à fleurs de bateau, souffle dedans, ça fait une voile pour nous mener aux étoiles. Moi j'ai ma chemise à fleurs de la peau, souffle dessus, ça fait un voile. Un voile léger, une escale. Elle aime, elle est la rigueur même, quand tout va droit, ou va de soi. Moi pas du tout. Elle me tient en joue, l'amour des heures, à loin dessous les fleurs. Là, qu'est-ce que c'est doux. Moi, j'ai ma chemise à fleurs de bateau, souffle dedans, ça fait une voile, pour nous mener aux étoiles. Moi, j'ai ma chemise à fleurs de la peau, souffle dessus, ça fait un voile léger, une escale. Elle nous voit bien, en plein cent ans, compter les trains, moi ça dépend. Elle cartésienne, moi dans le soir, on s'équilibre, on s'équitable. Elle nous voit-elle, moins en oublie. Comptez les nuages de l'usine. Elle cartésienne, moi dans l'espoir. On s'équilibre, on s'équitable. Elle aime les sentiments qui viennent de moi, qui sont pourtant tous de guingois. Bah ça nous va. C'est vrai, tu me renverses, je tiens debout comme une averse, un peu partout. Quoi, qu'est-ce que c'est doux. Un point c'est tout. Un point c'est doux.